Ce soir, je propose à partager sur le sujet de se tenir. Il y a plusieurs mots, quatre mots en hébreu et je crois un, deux, trois mots en grec qui parlent de cette idée de se tenir. Un des mots parle de action de se tenir debout et d'arriver là. Un mot aussi qui parle d'être, stationnaire, d'être là, sans mouvement, en silence. Il y a plusieurs types de cette action qui est importante dans la Bible. Et je viens de voir Éphésiens chapitre 6 qui parle de ce mot plusieurs fois, l'idée de tenir ferme, tenir debout. On voit ça, de mettre les armes de Dieu, toutes les armes. Donc on est à Éphésiens chapitre 6, verset 10, jusqu'à verset 18. Mais avant ça, toute la Bible enseigne de cette action et quelles sont les implications, quel est le message communiqué quand quelqu'un se tenait debout. Et le premier peut être en Matthieu 6, verset 5. Matthieu 6, verset 5. Jésus ne mince pas les mots, il dit clairement. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Donc, quelqu'un qui est dans cette situation est debout, en train de prier, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce n'est pas la prière vers le Seigneur ici. Cette action d'attirer l'attention parce que cette personne est probablement orgueilleux, peut-être qu'il cherche parce qu'il en a une convoitise d'approbation. Et donc cette personne dit, vois-moi, tellement spirituel. Et aussi de communiquer, voilà, je suis là, parce que c'est le quel est le mot? Antipothesis, c'est en contradiction pleine avec le fait que la prière en fait une action des fois humble, discrète, subtile, d'être pas là pour attirer l'attention. La prière d'un juste est là, il ne cherche pas l'attention. Mais quelqu'un qui faire ça, voilà, il cherche l'attention. Et ces deux possibilités. Première, la motivation est je veux que les gens me voient, je suis tellement comme ça. Et le deuxième est Jésus-Christ. Jean chapitre 7, verset 37, le dernier jour de la fête, il se tient de vous et crie. Crie parce qu'il communique quelque chose. Il veut attire l'attention, pas vers lui, mais vers le message, parce qu'il est le porte-parole, en fait. Il est Dieu, mais il communique la parole. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va communiquer, parce que s'il est comme ça, personne ne va voir, premièrement. Deuxièmement, quand il parle, les vagues de son, ou sound waves, les ondes, ne peut pas être efficace de transmettre, mais quand il est comme ça, peut-être comme ça, voilà, il peut voir tout le monde, il peut attirer l'attention comme ça pour communiquer quelque chose. Donc, c'est plus efficacement. Et la même idée, et en Némé chapitre 8, quand Esdras était debout comme ça, en train de prêcher sur une strade. C'est un pupitre, en fait, construit avec une strade, et c'est lui qui prêche. Il veut que tout le monde entend, parce qu'il n'a pas un micro comme nous avons, il a juste sa voix. Donc il doit communiquer quelque chose pour une multitude de gens à Jérusalem pour cette fête. Et évidemment, il a dit aux hommes, les Lévites aux côtés de lui, 13, je pense, 6, 7 et est-ce que c'est 16 de ce côté, en train d'aider avec ça. Mais lui, il enseigne la parole. Et quelque chose à noter avec ça, les gens se lèvent aussi pour la parole. Quand la parole est ouverte, je vais parler de ça dans une minute. Premier point, ça c'est un type de tenir debout. Le deuxième est quelque chose de plus sobre. Romains chapitre 14, verset 4. On n'est pas là pour juger les autres parce qu'on doit tous être debout devant Dieu pour rendre compte. Donc, premier exemple, le tribunal de Christ. Que chacun doit donner une réponse à Dieu lui-même, à Jésus-Christ qui est maintenant va évidemment donner les récompenses et pas punir les péchés. C'est plutôt un idée de partager les récompenses, parce que vous dites, qu'est-ce que vous avez fait avec ma grâce? Vous avez vécu une vie de 80 ans sur la terre, 70 ans, mais qu'est-ce que vous avez fait avec le temps, avec les ressources, avec les relations? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, c'est à nous de répondre. Je pense que ça va être un moment solennel, évidemment, et on va être seul devant lui. Donc, ce deuxième type de se tenir et cette idée de rendre compte, si on est un autre exemple, un chef de travail, si imagine on est dans cette entreprise et le chef dit, viens, la porte ouverte, on entre dans la salle, demande, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui avec cette compte? Qu'est-ce que vous avez fait avec le travail que je demandais? Donc, c'est plutôt, on a donné une réponse. On doit se justifier dans un sens, on peut dire. Donc, on est seul, on est debout, et c'est nous qui donnons une réponse. Donc, ça, c'est un autre exemple de rendre compte. Apocalypse chapitre 20 est le dernier, on va voir, de ce type. Verset 12, c'est le grand tremblement. Et j'imagine que les croyants, non-croyants, devant le trône, j'imagine que c'est un moment terrible. J'ai vu en Espagne une fois, dans une église, je n'ai jamais trouvé sur le site web, je googlais partout, mais je ne peux pas trouver. C'était un, qu'est-ce qu'on dit? C'est une pièce d'art, mais c'est une construction de le grand tremblement. Et Dieu était là, Jésus-Christ, sur le trône, et en train de regarder, et tout le peuple sont les petites pièces construites qui sont blancs. C'est une multitude, c'était tellement impressionnant. J'ai pensé, waouh! Première fois que j'ai vu quelque chose comme ça, c'était waouh, assez sobre, assez sérieux. Donc, imaginons, ils sont devant Dieu, devant Jésus-Christ, et il ne veut pas donner une réponse, mais il faut répondre. Les livres sont ouverts, ils sont tous debout. Personne ne peut passer à côté de ce jugement. Personne qui n'est pas croyant. Personne. Et donc, ça va être un moment que chacun doit être, je ne sais pas comment ça va marcher. Évidemment, Pasteur Stevens a enseigné qu'on va être présent dans un auditorium. Je crois qu'on va voir, évidemment, parce qu'on va être des témoins pour le grand tremblement. Mais on ne va pas être debout devant le trône, on va être à côté, on va être présent. Donc, chacun peut être en train de trembler, chacun avec une terreur qui veut cacher, mais ne peut pas être caché de lui qui est là devant eux, avec les yeux qui brillent, qui sont comme les qui percent, qui sont comme un laser, comme un laser. C'est horrible. Donc, de tenir debout, ça c'est un aspect. Ça c'est le deuxième exemple. Le troisième est plus encourageant. Je partage ça avec Robert. Et je pense que c'est, bien sûr, c'est applicable pour nous tous parce qu'on est là. Exode 14, verset 3 ou 13, je vais voir. 13, je pense. le peuple dit, oh, on va avancer dans le désert, les Égyptiens avec Pharaon en train d'approcher avec les chars, et nous, on est là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir dans le désert. Et Moïse dit, arrête, qu'est-ce qu'il dit? Ferme la bouche. Le mot tais-toi, non pas tais-toi. Garde le silence, mais le mot plus direct, shut up. On dit, tais-toi, taisez-vous. Et donc tout le monde est comme ça, il a dit, tenez debout, vous tenez debout et regardez la délivrance du Seigneur. Et des fois on est dans cette situation. Et des fois, on est en train de paniquer, tourner partout, cherche une autre possibilité. Et le Seigneur dit, whoop, ferme, reste. Restez, fermez, taisez-vous. Et voilà, voir la délivrance. Vous n'avez rien à faire. C'est moi qui vais le faire. C'est vous qui restez en silence. Restez, regardez. Une autre chose aussi, donc là et là, parce qu'on ne passe pas des histoires dans la tête, n'est-ce pas? Il faut faire ça. Non, ce n'est pas juste physiquement tranquille, c'est là et là qu'on est tranquille. Le mot en le verset 146, verset 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Pas besoin de faire tout ça, choisir ça, non. Et c'est, si c'est possible pour les Hébreux, avec une armée d'Égyptiens en train de passer, ça va être une catastrophe. On utilise le mot catastrophe quand on tombe une boîte de sardines sur le sol de la cuisine et il faut nettoyer. Ou casser quelque chose. Non, ce n'est pas une catastrophe. Une catastrophe est la Troisième Guerre mondiale, ou le jugement final, ou les Égyptiens en train d'attaquer. Ça, c'est une catastrophe. C'est intéressant. On mémonise les mots, n'est-ce pas? Mais voilà, on peut arrêter et sachez que le Dieu, il approche. Donc, il est fidèle pour les petites choses. S'il est fidèle pour ça, il est fidèle pour moi. S'il est fidèle pour ça, il est fidèle dans mon mariage. Est-ce que Dieu peut régler les histoires de mon mariage? Un problème d'accident de voiture, virer de mon travail, perdre mon bonne réputation. Oui, la maison était dans un tremblement de terre, bouffe. Heureusement, on n'était pas dans la maison que c'est descendu. Ça, c'est une catastrophe, mais le Seigneur est fidèle parce qu'il était fidèle avec les Égyptiens. Les Égyptiens sont morts. Pharaon, son âme est finie. Et nous avons arrêté, on a voulu la délivrance de Dieu. Je crois que si la chose qui est plus grande, ça s'appelle a fiori rule, la règle a fiori, si le plus grand est possible, le petit est évidemment possible. Donc, si c'est possible pour nous de, je ne sais pas, je cherche pour une illustration. Mais si c'était possible de faire quelque chose d'énorme, c'est possible de faire quelque chose plus petit. Parce qu'on a déjà accompli des choses grandes. Vous voyez la règle un peu, le principe? C'est juste une idée, mais juste pour ajouter à ça. Si le Seigneur est fidèle dans les grandes choses, il est évidemment fidèle dans les petits. Psaume 1, c'est le prochain 4. Psaume 1, verset 1. Ça, c'est une application, je crois, c'est important. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, c'est ça. Le mot là, dans le Darby, est se tient. Pas dans le chemin des péchés. Ça veut dire, je suis debout et je suis en plein arrêt et je suis sur la route des pécheurs. Ça, la vie, la voie des pécheurs. On connaît un homme qui a fait ça, Lot. Genèse chapitre 13, il commence à s'éloigner d'Abraham, il choisit les terres qui est plus proche de Sodome et Gomorrah. Et qu'est-ce qui se passe? Il continue jusqu'au le moment où il entre dans les portes et il habite dedans. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il est maintenant dans la voie des pécheurs. Et pas juste les pécheurs, dans les voies des méchants. Et qu'est-ce qu'il pense? Peut-être un chrétien pense ça. Oui, c'est possible pour moi de vivre là-bas parce que je peux avoir une bonne influence. Au milieu, dans une mauvaise fréquentation, oui, je peux amener Christ. Non, vous êtes en plus comme Lot, plus influencé par Sodome que tu penses que tu influences Sodome. Mais tu n'es pas en train d'influencer Sodome, c'est Sodome qui est en train de vous influencer. On ne peut pas rigoler avec ça. Si c'est ce cas, si on fait ça, on reste. Et le mot dans la version amplifiée, c'est intéressant, amplifié en anglais. Je ne sais pas s'il est amplifié en français, mais si c'est le cas, ça va être super. Un outil, le Bible amplifié, amplifie le verset avec plus d'aspects. Et le mot ici dit, nor stands, qu'il ne tient pas. Submissive et inactive, ça veut dire je suis soumis de cette pression de ces méchants qui vivent comme ça. Donc, en fait, qu'est-ce que se passe? Je suis en train d'être un récepteur de toutes ces mauvaises ondes. Je suis là, influencé par ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Get out of Dodge, je sors, je pars, c'est la fin, au revoir, j'en ai mangé, je me barre. Donc il faut aller, on ne peut pas rester en Sodome. Si on a appelé à Sodome, ça c'est une autre chose, mais si on a choisi parce que Sodome a une jolie vue avec le lac ou la montagne, non, Sodome, c'est destruction bientôt, donc quitte Sodome rapidement. Influencé par Sodome. Donc, faire ça. Psaume 119, verset 130. Prochain. Psaume 119, 130. Je vais essayer d'expliquer ça. Esdras, sur la route de Babylone, en train d'écrire cette psaume. Il dit... est-ce que j'ai noté le... Non, c'est... je vais juste vite voir, pardon. Est-ce que c'est 51? Ok, le verset est en Psaume 119, mais il dit, je tiens en silence, les princes me persécutent sans une cause, mais je suis émerveillé par ta parole. I stand in awe of your word. Je suis debout avec un émerveillement de ta parole, Seigneur, mais je suis persécuté. Mais je ne suis pas, ça c'est pas le focus, c'est pas ma, je ne suis pas focalisé par les pressions des ennemis, le moquerie. Non, je suis, en fait, en pleine adoration de sa parole. Je suis plus conscient de lui. Est-ce que c'est verset 151, peut-être? Oui, très bien. Oui. Non, Psaume 119, 161. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble que à tes paroles. Tremble, je suis silence, je suis debout et je dis, waouh, Seigneur, ta parole. Je ne peux pas sauter de la situation physique autour de moi, mais dans mon cœur, je ne suis pas influencé. On connaît des gens qui sont comme ça. On voit peut-être Joseph. Oui, oh wow, Seigneur. Je suis dans la fosse de lion, mais ta présence, ta parole. Wow. Oui, je ne peux pas sauter. Il y a des gens qui sont jaloux, qui m'ont mis dans cette fosse. Mais mon cœur, ici, j'ai un festin de doctrine dans mon cœur à grâce à ta parole qui était plantée, imbibée dans mon cœur. Maintenant, je suis plus centré sur ça et toi, tu occupes avec les problèmes autour de moi. Donc, quelqu'un qui est courageux, qui est focalisé sur la parole de Dieu, qui demeure avec la parole est en eux et quelque chose est produit et c'est un témoignage pour les autres, qui voit qu'on n'est pas touché. Et quand les trois gars hébreux, les trois jeunes dans le fournaise, il n'y a pas quelque chose qui brûle. Aucun brûleur, rien. On est juste avec Christ, avec sa parole. Donc ça c'est le cinquième. Un autre mot utilisé, c'est le mot en anglais « withstand ». Et c'est le cinquième part de Galates chapitre 2, verset 11. Mais l'idée de se tenir est là. Galates chapitre 2, verset 11, point numéro 6. Et ici, c'est l'action d'homme fidèle et intègre. Pierre était confronté par Paul et Paul en train de dire, mais lorsque Céphas vint à Antioche, le Jésus résistait en face parce qu'il était répréhensible, condamné dans le derby en fait. Il était coupable pour l'hypocrisie. Et l'idée ici est un homme ou une femme de Dieu peut se tenir debout pour confronter quelqu'un. Un frère ou une soeur, écoute, vous êtes tort. Vous avez tort. Vous avez tort dans ce point. Et c'est ma responsabilité d'être un frère ou une soeur pour vous confronter. Je ne vais pas passer l'éponge comme ça, non. Je vais confronter et parler en amour. Et un homme de Dieu, une femme de Dieu est courageux de faire ça. Écoute, on parle en privé, mais il faut régler cette histoire. Donc, opposer la même idée en opposition, on voit en Actes chapitre 13, verset 8, c'est un exemple plutôt de quelque chose de démonique. Paul et Barnabas, devant le précepte, c'est le proconsul en Chypre, il arrive de parler avec le proconsul. Elymas le sorcier approche et il a confronté Paul et c'est une confrontation de puissance spirituelle. Et Paul a dit, tu es aveugle, tu étais Satan en opposition contre toutes les voies de Dieu. Tu sors et il commence aveugle. Mais il a posé, application, on va être opposé par Satan. Satan est notre opposition. Et lui, quand il est quelque chose pour le royaume de Dieu, on va être confronté par l'ennemi. Dans une forme ou l'autre, on discerne que l'ennemi est là, un moqueur, un accusateur, et nous, des fois, on va dire ça. Dans le nom de Jésus-Christ, rien à faire avec vous. Vous n'avez rien à faire avec les affaires de Dieu. Et des fois, on peut dire aux gens, ça dépend. Évidemment, on n'est pas en train de faire de grandes histoires avec les gens, mais il faut savoir et pas avoir un étonnement qu'en fait, on va être opposé. Si Moïse était opposé par Jannès et Jambres, les magiciens égyptiens, dans l'entourage de Pharaon, on va être opposé aussi. Et Moïse était un homme fort en Dieu, un homme courageux. Et évidemment, ces magiciens essaient de moquer et d'opposer Dieu et de faire ça avec Moïse. Donc, confrontation, opposition, c'est partie de la vie chrétienne. On ne va pas être aimé par tout le monde. Des fois, on, comme Pasteur Chibeli dit, on n'est pas dans une votation de popularité. On est là parce qu'on aime Dieu et des fois, on va être peut-être moqué, peut-être les gens ne vont pas nous aimer. On ne va pas être aimé. Mais ce n'est pas un problème. on court avec ceux qui cherchent Dieu avec un cœur qui est pur. On n'est pas intéressé avec le reste. Prochain point, témoignage. Et ça, c'est important. Actes chapitre 7, on ne va pas parler en profondeur dans cette verset, mais ce chapitre, mais de tenir debout avec l'idée d'être un témoignage contre quelqu'un. Ici, en Actes chapitre 7, Étienne est, il n'est pas un débutant de tout, mais il est un jeune, choisi d'être diacre, et maintenant il est devant les 70 ans qui sont le Sanhédrin. Donc les experts de la loi, et c'est lui qui donne une leçon, un cours, un enseignement, et comment ils sont passés à côté de la plaque. Ils ont refusé et résisté le Saint-Esprit. Et la fin de son histoire qui explique tout, il dit, il est debout devant eux, il dit, vous êtes toujours en train de résister Dieu, vous êtes têtu. Et tu vous êtes comme ça. Et quand il ne peut pas résister la sagesse d'Étienne. Mais il faut savoir l'une des raisons pourquoi il était debout devant ces hommes et pour rendre un témoignage. Parce que Dieu est juste. Et Dieu voit les gens qui sont en opposition contre lui. Et lui, il va dire, écoute, je vais amener mon serviteur pour vous confronter. Parce que vous êtes totalement redevable. Et si il y a un moment que vous êtes devant le trône à la fin, pour être jugé avant enfer, je vais mettre maintenant une opportunité pour vous d'écouter bien que vous êtes tort. Vous avez tort et vous êtes en opposition de la vie de Dieu, apparemment avec l'impression que vous êtes religieux. Mais vous êtes contre Dieu et en train de tuer tous ses serviteurs. Donc, c'est une redevabilité pour le Sanhédrin. C'est Dieu en train de dire, voilà, je vais envoyer mes prophètes et mes prophètes vont dire la même chose et vous allez tuer les prophètes. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes ignorant que Dieu parle parce qu'il a envoyé des serviteurs. Le principe dans Deutéronome de deux ou plus serviteurs, deux ou plus témoins, est fait et établi par deux ou plus. Donc quand Dieu parle trois fois par trois serviteurs, par le pupitre, par lecture quotidienne, par un ami, un frère, trois répétitions de la même chose, on ne peut pas bloquer les oreilles. Dieu parle. C'est une confirmation. Si on ignore ça, c'est le péché. Il va évidemment résister nos vies. Mais voir de notre côté, les leaders de ce monde pensent qu'ils sont arrogants, invincibles, que pas être approchés. Il faut que Dieu parle avec eux aussi. Il dit, écoute, voilà, redevable, redevable. Je parle, vous écoute. Il y a un jour de jugement et justice qui vient. Et vous, vous continuez de jouer le même jeu, mais ça va finir un jour. On peut être utilisé pour rendre les gens redevables. Donc, ne quittez pas si on est opposé. Des fois, on est là pour parler. Pas que la personne va repentir, mais plus pour amener une couche de jugement sur la personne. On n'est pas là de chercher de faire ça. On est humble, on aime les gens, on veut voir les gens sauvés. Mais il faut savoir des fois, c'est le fait. Dieu va ajouter une couche de jugement. Il va dire, vous avez ignoré mon serviteur et maintenant il y a quelque chose de plus qui va passer. Donc, soyons pas découragés quand on est opposé. Il y a une raison derrière de ça. Ça, c'est le septième point. J'ai 80, mais on va arrêter avant ça. Je rigole, c'est pas 80, c'est juste 12. Je vais aller directement à le prochain. Je vais arrêter dans un moment précis, mais il y a un que je ne peux pas arrêter avec ça. Élias, le fils de Dodo. Élias, le fils de Dodo. Je partage ça avec Robert lundi. Élias, le fils de Dodo, 1 Samuel chapitre 23, était un des hommes puissants. J'aime le mot Dodo, n'est-ce pas? C'est un peu rigolo. Mais l'histoire, 23, verset 9 et 10 et 1 Chronique, chapitre 11, versets 12 à 14. J'ai partagé cette portion dans la conférence de Paris cette année. Il est un chant d'orge. Et nous avons David, nous avons Élias, et en fait, je vais lire le verset. Samuel 23, pardon, c'est ma faute, citer le mauvais verset. Après lui, Élias, fils de Dodo, fils d'Antoshi, il était un des trois guerriers qui affrontait avec David le Philistin, ressemblé pour un combattant, disent que les hommes d'Israël s'étaient retirés sur les hauteurs. Il se lève et a frappé les Philistins jusqu'à ce m'enfuit l'as à quel resta attaché son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance. Ce jour-là, le peuple revit après Élias seulement pour prendre pour les trésors, pour chercher les choses pour prendre. Qu'est-ce que se passe ici? David, les autres Israélites sont en train de courir parce qu'il y a un groupe de Philistins. Élias est là, il a son épée. Il est autour, il est le centre de ce champ. Et c'est là que nous avons Éphésiens chapitre 6 et 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Nous avons des références dans le Nouveau Testament. Un homme qui tient debout, qui a accepté d'entrer dans son appel, qui ne va pas bouger, il prend l'épée, il va tuer les ennemis. Donc maintenant, ce n'est pas une question de voir le Seigneur est en train de faire des choses. C'est de laisser le Seigneur opérer vers lui pour tuer les ennemis. Et lui, il ne peut pas parce que l'épée était collée à sa main. Il a tué plusieurs Philistins. Ce n'était pas possible. C'est un combat avec lui et David était présent. Donc, ça veut dire que c'était deux hommes. Deux hommes contre tous les Philistins. C'est une histoire peut-être un peu fantastique, on pense, mais c'était vrai parce que c'est noté dans la Bible. 10 peut chasser 100, Deutéronome. 100 peut chasser 10 000. Ça parle de les démons, mais c'est possible aussi pour des hommes valiants qui tenaient comme ça debout pour bloquer, opposer. Quelle est l'application? Nous, aujourd'hui, on est une petite église, mais on occupe cette champ. Et on dit on va défendre nos enfants contre ces pervers qui parlent de c'est possible de changer de sexe. Pervers. Il faut aller en prison. C'est des gens il faut aller en prison pour faire des choses comme ça. Pour endoctriner les hommes et les femmes avec l'homosexualité et lesbienne, il faut choisir c'est le mot qui... Non. On est là et on ne va pas bouger. Parce qu'on ne va pas bouger les anciens marqueurs qui sont placés. Les bons, on ne va pas bouger. On ne va pas déplacer ça. Parce qu'on est des hommes et des femmes de Dieu. Et de tenir ferme comme un homme de Dieu, en 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va expérimenter la honte devant lui parce qu'on a fait le compromis? Ou est-ce qu'on va dire... On va être persécuté sur la terre, mais on va dire, écoute, mon conscience est claire devant lui parce que on a, avec amour et avec respect pour les individuels, je dis un activisme, un esprit démonique. Non, vous ne touchez pas mes enfants, vous ne touchez pas mes jeunes, vous ne touchez pas les autres. On est un groupe qui cherche et aime Dieu. Personne entre par cette porte qui va nous endoctriner avec une doctrine qui est démonique. Personne. Parce qu'on est là, on intègre, on aime Dieu. Si les autres doivent faire des bêtises, ils veulent faire, mais on va prier que Dieu va faire quelque chose avec ça. Et ça, c'est de tenir debout. C'est ça avec une épée qui dit, il y a plusieurs adversaires on n'avait pas grande force, mais on n'a pas abandonné le Seigneur. C'est sérieux, c'est tellement important. Dieu est avec nous. Et lui, il va opérer une grande délivrance par nous. Parce qu'on est eux qui n'ont pas la honte. C'est nous qui sommes placés là. On n'est pas là pour sauver tout le monde. On n'est pas là pour aller là-bas. On est là, on était confié avec une petite terre, un petit terrain. Et c'est là qu'on défend. On n'est pas appelé de faire des choses ailleurs. Ça, c'est pour des autres églises, peut-être. Nous, on est placé ici. On peut prier pour la victoire là. Et là, on tient debout et on continue de prêcher les messages sans compromis. C'est important parce que, comme on a dit, Romains 14, verset 4, on va présenter la raison pour nos vies devant lui. Aucune excuse. On doit le faire. Wow. Et il est avec nous. Il faut comprendre ça. Il est avec nous. Zacharie chapitre 3. Et on va finir peut-être dans quelques minutes. Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange, l'éternel, le Satan qui a tenu à sa droite pour accuser. Il va être toujours là. Il est l'accusateur jour et nuit en Apocalypse chapitre 12, verset 9, 10. Je crois que c'est. Est-ce que c'est 10, 11, 12? Il est là jour et nuit pour nous accuser. Et nous sommes devant le Seigneur. Et là, le Seigneur va dire, comme il a dit avec Josué, on est habillé avec les linges purs, pas avec les vêtements sales. On a imputé, la justice est imputée. On est là debout devant le Seigneur. Et lui, en train de toujours moquer, en toujours. Il est la voix dans nos oreilles à 3 heures le matin. Vous êtes un chrétien, vous faites ça, vous avez fait ça aujourd'hui. Et des fois, c'est des petites choses qu'il dit. Et on dit, tais-toi. Je sais qu'est-ce que tu vas passer pour toi. Parle avec mon avocat Jésus-Christ. Je ne rien dire. Et donc, vois comment on peut avoir cette opposition, voir comment notre Dieu est plus grand. Wow. Et dernière. S'il te plaît. Il y a un ami qui est plus proche qu'un frère. Quelqu'un qui prend notre place et tient debout avec nous. Nous avons des amis comme ça. Nous avons des frères et sœurs en Christ comme ça. Ils sont là pour nous aider. Merci. Et donc, foi, ce n'est pas planifié, c'est un point que je jetais. Mais on est des amis qui sont avec nous, qui prennent la place. Je vais protéger, je vais aider. On n'est pas seul. C'est pourquoi nous sommes le corps de Christ. Et je termine avec ça, que Dieu vous bénisse. On est debout pour le Seigneur. Amen.